c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmyre Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée au lit inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Renseignements et réservations au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Nous allons consacrer une large partie de cette émission à Nous, les Leroy. Ça sort mercredi au cinéma. À cette occasion, les producteurs Romain Rousseau et Maxime Delaunay vont nous rejoindre dans une poignée de secondes, accompagnés de Florent Bernard, le réalisateur, et de Lily Aubry et Adrien Olmé, pour parler de la sortie de ce très joli film avec également Charles Gainsbourg et José Garcia. On va également, eh bien, évoquer les 3 mois de Plus belle la vie, encore plus belle, 65 épisodes plus tard. Eh bien, la série est là sur TF1, bien installée à cette occasion. La productrice Clémentine Planchon revient faire le bilan avec nous de ces 3 premiers mois. Et puis, un des couples emblématiques de la série, Jérôme Bertin et Marie Réache, alias Patrick et Babette Nebout, nous rejoignent. Et puis, on va parler de Homechecking, la série événement d'OCS Pulp avec Karl Malapa et Sophia Le Safre, qui vont également nous rejoindre.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
On démarre notre spécial Nous les Leroy, ça sort ce 10 avril au cinéma et on a la chance d'avoir toute une partie de l'équipe aujourd'hui, à commencer par les producteurs Romain Rousseau et Maxime Delaunay qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis Florent Bernard va nous rejoindre dans un instant, le réalisateur, et qui sera accompagné par Lily Aubry et Adrien Olmé également, qui viendront nous rejoindre. C'est les deux ados du film qu'on a envie de mettre à l'honneur justement aujourd'hui, qui sont formidables. Qu'est-ce qui vous a donné en tout cas, vous, chez Nolita, l'envie de produire ce film? Qu'est-ce qui a été le déclic en tout cas? Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à Florent?
Florent parce que c'est un garçon simple, humble. On connaissait assez peu, je dois dire, le podcast, son gros succès en podcast. Je crois que c'est, enfin, il vous le dira, mais c'est un des podcasts les plus écoutés en France, en tout cas sur vraiment à destination plutôt des jeunes. Voilà, donc on connaissait de nom, on va dire, pas plus que ça. Et puis il est venu nous voir et lui connaissait aussi des choses qu'on avait faites. C'est un ami d'Aurel San, il avait travaillé sur Bloqué avec Aurel San et nous on avait produit Commencer loin, on avait produit Monde jamais ça à personne, la série de Clément Cotentin dédiée à Aurel San.
Commencer loin, on avait reçu d'ailleurs Aurel San et Grinch à l'époque au festival de la Baule.
Ouais, absolument. Ouais, pour le festival de musique de la Baule. Ouais, et donc du coup on avait voilà ces points communs et puis le sujet on en parlait tout à l'heure en préparant l'interview, on a nous peut-être ce prisme éditorial, on va dire, de travailler sur des sujets populaire qui parle de la famille, qui parle de la vie en général. C'est des choses qu'on a apprises beaucoup avec Jean-Paul Rouve, parce que notre premier film c'était Les Souvenirs de Jean-Paul. Bah voilà, c'est des choses qui nous touchent, c'est des choses qui parlent, je pense, à plein de gens, avec beaucoup de sincérité. C'est des petites séquences de vie comme ça. Et puis on essaye de le faire avec de l'humour, avec beaucoup de légèreté. Et puis on voit que ça fonctionne là.
Ça fonctionne très très bien, ça je vous confirme. On a pu le voir au festival de Alpe d'Huez, nous, avant tout le monde. Et ça a été une standing ovation à la fin. Vraiment, les gens étaient ravis. Malgré tout, quand c'est un premier film d'un réalisateur, est-ce que quand on est producteur, que c'est nous qui détenons un peu les pépettes, est-ce que on a peur un peu, Romain ?
Alors, on a évidemment toujours peur, que ce soit un premier film ou pas un premier film. Après, nous, on a fait pas mal de premiers films, donc on commence un peu à
être aguerri.
Oui, puis à connaître un peu les écueils. Donc, il y a rarement de règles, mais là, c'est vrai que le projet de Florent cochait un peu toutes les cases. C'est, on a fait le premier film de Michel Larocque. Enfin, voilà, le premier film de pas mal de réalisateurs et de réalisatrices. Et en fait, le truc, c'est que, enfin, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de règle, mais en fait, qui parle d'eux. Et vraiment, le film de Flo, c'est la quintessence du truc. C'est-à-dire que il parle d'un divorce qu'il a connu, il parle d'une famille qui est plus ou moins la sienne. Donc, il a tourné dans sa région, on a tourné en Bourgogne. Enfin, il est vraiment à domicile. Donc, en fait, quand il invente une nouvelle réalité, en fait, il s'inspire tellement de la sienne que quand il sait pas, on lui dit toujours, bah, tu sais quoi, fais comme c'était dans la vraie vie.
Soit le plus vrai possible.
Ouais, exactement. Exactement. Donc voilà, mais oui, on a toujours plein de préoccupations. C'est pas vraiment des angoisses où si on commence à avoir peur, on n'avance pas. Et puis après, il y a autre chose sur les premiers films, c'est que le premier film ne doit être que le premier film du réalisateur. Et donc, on lui a présenté des personnes qui étaient ultra aguerries à tous les postes. Et voilà, et des gens qui ont pu échanger avec lui et mettre en image ou mettre en musique ce qu'il avait envie de raconter.
Déjà, au début, ça va très très vite, puisque on part de la rencontre hein, des personnages quelque part, et on suit un peu tout. Toute leur vie en accéléré pendant tout le générique. Et puis on arrive à un moment où ce couple s'essouffle, hein, en quelque sorte. José Garcia, très absent, Charlotte Gainsbourg, qu'on peut plus. Ces deux personnages, voilà, un peu à la dérive chacun de leur côté, où d'un seul coup, le personnage de Charlotte, Sandrine, va prendre une décision radicale, va dire, on se sépare, on arrête là. Et donc José Garcia, lui, son personnage, va dire, donnez-moi un week-end pour revivre les grands moments, en tout cas, de notre couple, et faire un espèce de road trip en famille. Donnez-moi au moins ça, voilà, pour ces trois derniers jours. Et ça va être un road trip qui va être occasion, évidemment, ben, de nous faire rire, de nous faire aussi pleurer par moments, et de nous émouvoir, et c'est aussi ça, l'ascenseur émotionnel, avec ces deux ados un peu au milieu, qui eux sont un peu oubliés des parents, enfin leurs problèmes en tout cas, voilà, sont un peu oubliés au cœur de cette guéguerre. Et c'est vraiment le film familial par excellence à aller voir en famille.
Bah, je crois, merci en tout cas de cette description, elle est, je crois, assez juste. C'est aussi un premier film pour eux, pour Lily Aubry et pour Adrien Olmé, qui, très tôt, Florent avait envie que ce soit eux. Alors, c'est marrant parce que les gens, à l'Alpe d'Huez, quand on a présenté le film, disaient, mais j'ai l'impression qu'ils sont comme ça dans la vraie vie, mais c'est un peu le talent de Florent, c'est ce que les gens vont revoir retranscrire dans le film. C'est que j'ai l'impression qu'il a réussi à choper l'ADN de ce que sont ces jeunes adolescents aujourd'hui avec cette...
Son criant de vérité.
Voilà. Cette espèce de mutisme du grand frère, la petite sœur qui cherche à exister par tous les moyens, et puis les parents qui sont, eux, dans leur logique à eux, Charlotte d'une séparation qui, selon elle, devrait se passer le plus calmement et le plus doucement possible. Et puis José qui veut pas entendre parler, qui dit mais ok, je veux bien assumer le fait d'avoir déconné ces dernières années, mais donnez-moi une dernière chance. Voilà. C'est cette espèce de moment qui va faire que à quatre, et je crois que beaucoup de familles françaises vont se retrouver là-dedans, on va voir rejaillir les défauts, la mauvaise foi, et puis quelque part derrière toute la tendresse, quelque part, parce que c'est ce qui se dégage à la fin de ce film, toute la tendresse de tout ce vécu commun, quoi. Voilà.
Ouais. Et ben on va écouter la bande-annonce, justement, Nous les Leroy, ça sort ce 10 avril au cinéma, et Florent Bernard, le réalisateur, va nous rejoindre et nous donner ses impressions à quelques tout petits jours de sa sortie, en tout cas. Merci Romain, merci Maxime.
Merci beaucoup, merci à vous.
Et à très vite.
Alors tu veux me quitter, c'est ça?
Je veux pas qu'on se déteste pour autant.
Non, écoute, ne sors pas toutes ces phrases à la con, là, c'est pas toi, c'est moi.
Bah non, c'est toi.
Hein? J'ai réfléchi toute la nuit.
Ah merde.
Non, pas ah merde, justement. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy.
Florent Bernard nous rejoint pour cette spéciale Nous les Leroy ce 10 avril au cinéma. Bonjour Florent, merci d'être là.
Bonjour, ravi d'être là, merci beaucoup de consacrer toute une émission à ce film, donc je suis très content d'être ici.
Eh bien écoute, nous aussi, parce que franchement ça a été un joli coup de cœur au festival de l'Alpe d'Huez quand on l'a vu en janvier dernier, et j'avoue que c'est un des premiers coups de cœur de ce printemps aussi, un film à aller voir en famille, qui fait du bien, où tout le monde peut s'identifier aussi. On a planté un peu le décor avec les producteurs. Mes premières questions que j'ai envie de te demander, Florent, par quelles émotions on passe quand on prépare, quand on fait un premier film?
Oh, on passe par plein d'émotions. On passe par l'angoisse, par le stress, forcément, c'est des grosses machines, et on essaie de se souvenir pourquoi on fait ça, tout le temps. Et moi, pourquoi j'avais envie de faire ça, c'était je voulais parler de la famille comme moi j'ai eu la sensation de la vivre, dans ce qu'elle a de beau, dans ce qu'elle a de parfois de triste, et en même temps d'essayer de faire une vraie comédie avec des vrais moments drôles, mais aussi d'essayer de faire passer effectivement un petit peu d'émotion. C'est des films qui, moi, j'ai été, les films qui m'ont le plus touché dans ma vie, c'était des films comme ça. Et je me suis dit, ah, j'ai envie de faire un film comme ça, avec aussi cette volonté de prendre toute une génération d'acteurs et d'actrices que j'adore, des gens qui je travaille depuis parfois 10 ans, que ce soit Adrien Méniel jusqu'à Sophie-Marie Laroui, etc. Tout aussi en me faisant kiffer et en travaillant avec des acteurs que j'adore, dont je suis fan absolu, que ce soit José Garcia, Charlotte Gainsbourg, Luis Rego, bien sûr. Et voilà, donc c'était tout ça. Et c'est toujours la balance entre stress et excitation. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la balance jusqu'à maintenant, quoi, parce que là, on le présente aux gens. Et quand on le présente aux gens, c'est pareil. On est mélangé entre stress et excitation. Et c'est trop bien.
Dans ton écriture, parce qu'il faut savoir quand même que c'est toi qui as écrit le film aussi. Tu ne l'as pas que réalisé, tu l'as aussi totalement écrit.
Ouais, je l'ai écrit tout seul, parce que moi j'ai déjà écrit des films avec d'autres gens, mais c'est la première fois que j'écris un film seul et que je le réalise seul aussi. Bah, après j'ai eu une énorme équipe adorable, mais en fait c'est des amis, mais c'est d'abord des gens dont je suis fan. C'est des gens que je trouve extrêmement talentueux et que je trouve pas assez présents. Au cinéma, à la télévision, sur scène, c'est des gens que je trouve, leur talent est si énorme que en fait c'est un cadeau qu'ils me font en étant dans mon film. Parce que moi je me dis, j'ai un film avec, je trouve, les gens les plus drôles de France actuellement. Il y en a d'autres et avec qui j'espère travailler. Mais là, je sais que tout le casting, c'est que des gens qui m'ont fait pleurer de rire et pas que dans la vie.
Aussi, qui malgré tout, à l'instar de Luis Rego, qui amène une émotion aussi, ouais. mais hyper intense puisqu'il joue le rôle du papy. Ouais,
Luis Rego, c'est un cadeau dingue. Et vu qu'on avait déjà en tête José Garcia, je me suis dit mais en plus ça marche bien. José a des origines espagnoles, Luis c'est plus le Portugal, mais il y a ce truc du sud. Et j'ai rencontré Luis Rego. Et là, ça a été, y a plus eu de questions, quoi. Je me suis dit, putain, mais il est vif, il est malin, il avait des retours un peu sur ses répliques en disant, je sais pas, ça, je me posais une question. Voilà, etc. Et il nous a beaucoup, beaucoup donné. On a tourné la scène de nuit, il aurait pu être claqué. C'est un gars qui a 80 piges, hein, Louise. Et ça se voit pas parce qu'il a une énergie, il comprend le rythme comique, c'est en lui, ça bougera pas. C'est un génie de la comédie depuis qu'il a commencé au Café Théâtre et c'était un cadeau du ciel de l'avoir, dans ce film. Et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a les ados. Enfin, je les appelle les ados, ils ont 18 piges hein, maintenant, mais y a des acteurs de 16-17 ans jusqu'à Luis Rego, et j'ai essayé de faire en sorte que tous les personnages soient marrants et apportent de la comédie au film. Et effectivement, c'est un road trip, et l'idée du road trip, c'est que chaque personnage que tu croises dans ton road trip apporte ta propre histoire, et c'est ce qu'on a essayé de bâtir tout en essayant d'avoir des vrais moments de comédie. Quand on a des acteurs qui ont changé, j'ai réécrit à chaque fois. J'ai réécrit pour eux et même après j'ai réécrit avec eux. On a fait beaucoup de lectures, beaucoup de répètes. Moi, je suis pas quelqu'un qui improvise beaucoup sur le plateau, j'aime pas trop ça. En revanche, j'aime beaucoup faire énormément de lectures et de répétitions parce que c'est là où on trouvera les idées, quoi. Il y a pas le stress de la caméra, de l'équipe technique, il y a que moi et le comédien. Et on discute, et là, il y a des petits trucs qui naissent, et ça, je trouve ça assez chouette.
T'as une scène particulière qui t'a marqué?
C'est la scène du restaurant, je dirais, parce que c'était la plus stressante. Je savais que c'était un moment clé du film, on va pas trop en dire pour les auditeurs, mais je savais que c'était
une bascule à ce moment-là.
C'est ça, exactement. Il y a une bascule, même de ton un peu, et on essaie de mélanger des trucs. Et c'était, une grosse mise en place, il y avait beaucoup de figurants. Je peux dire quand même qu'on devait faire chanter José sur scène. Donc, il se passait beaucoup de choses et on mélangeait. Et donc, j'avais pas peur, mais je savais qu'il y avait un truc à jouer. J'avais beaucoup de taf sur cette scène.
La musique a une part importante, très ancrée années 80-90.
Bah en fait c'est l'histoire de ce couple. J'ai essayé de mettre des chansons qui ont eu de l'impact dans leur couple. Et en fait c'est rigolo parce qu'en fait il y a très peu de musique au début du film. Je voulais vraiment avoir un peu le côté froid d'une famille qui va pas très bien. Donc il y a l'envolée de musique sur quand on résume leur vie. Mais après quand on est dans la vraie vie, il y a plus de musique. Et l'idée c'est que quand le road trip démarre, là ça y est, on remet la zik, on remet les pétards. Et effectivement c'est un film qui a vraiment une BO que française également. C'était aussi le but, non pas que je sois forcément nationaliste, mais j'ai beaucoup de respect pour les Américains ou les Anglais qui jouent beaucoup avec leur culture. Et je savais que j'avais à cœur ça. Moi, je me suis dit, on a une culture française folle en musique, dans tous les genres que ce soit, parce que c'est très années 80-90, mais il y a beaucoup de genres différents. Et il y a des chansons même très récentes. On a quand même enregistré une chanson spécialement pour le film avec Maxence, qui est un chanteur qui fait la musique de fin. L'idée, c'était aussi de faire un vrai film avec une BO. Moi, j'écoutais beaucoup les BO quand j'étais plus jeune. Il n'y avait pas encore Internet vraiment démocratisé, donc une fois qu'on avait vu un film, on écoutait la BO pour se rappeler du film, quoi. Je me souviens des BO de Tarantino ou des BO de Guy Ritchie ou des choses comme ça. Et donc j'ai essayé humblement, je me compare pas à ces gens très forts, mais de reproduire ça dans mon film.
Et dis-moi Florent, mais ce petit clin d'œil au Futuroscope aussi, c'est vachement bien ça.
Oui, bah en fait c'est parce que j'y suis beaucoup allé. Et puis en vrai c'est le cas de beaucoup de gens de ma génération. Donc c'était un petit clin d'œil. Bah c'est ce que je dis souvent, c'est que ce que j'adore dans la comédie américaine ou la comédie anglaise, c'est qu'elle sait jouer avec sa culture. Bon, y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà allés au Futuroscope. Donc voilà, donc c'était un petit clin d'œil amusé, voilà.
Mais t'as fait la Vienne Dynamique plusieurs fois.
J'ai fait la Vienne Dynamique, j'ai vu Claude Pieplu, j'ai vu, enfin voilà, je me suis brisé le dos sur cette attraction, mais Je ne suis pas allé récemment au Futuroscope. Faudrait que j'y retourne parce qu'il paraît qu'ils ont plein de nouveaux trucs très cool. Mais moi, c'est mes souvenirs d'ado. C'est mes souvenirs de. C'est un film que j'ai écrit sur quand j'étais ado. Donc j'ai essayé de garder mes souvenirs d'ado.
Alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous, peut-être il y a quelques minutes, hein, on rappelle un peu l'histoire de départ sur le générique. On suit vraiment ce couple dès son premier baiser quasiment, hein, et on va suivre ça jusqu'au moment où le couple s'essouffle. Et là, sur le générique, il y a tout plein de scènes qui virevoltent comme ça, qui vont très très vite. Et c'est ça qui est beau. Et on arrive à un moment donné, on rentre dans le film. Effectivement, au moment ce couple va pas très bien et va devoir faire des mises au point, et on va suivre ce road trip pour tenter de recoller les morceaux ou pas. Voilà, c'est ce que vous allez voir en tout cas en allant voir ce film. Ça s'appelle Nous les Leroy. Ça sort ce 10 avril au cinéma. On va mettre à l'honneur Lily Aubry et Adrien Holmé dans un instant, qui sont les ados de ton film, qui sont totalement incroyables, criants de vérité. On va leur dire à quel point on les a aimés justement dans un instant, juste après un nouveau petit extrait de ce film Nous les Leroy, le premier film de Florent Bernard à ne pas manquer au cinéma. Merci Florent.
Merci beaucoup.
Avec votre budget, si vous voulez faire des activités tous les jours, je vous proposerais de plutôt partir sur Bali.
Ça peut être un autre pays, on n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait avec votre mari un truc un peu exotique.
Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on va terminer donc cette spéciale Nous les Leroy avec bien justement les ados. Ils sont incroyables. Non, quand on a vu le film à Alpe d'Huez, on s'est dit c'est de là, faut absolument qu'on les invite dans notre émission. On a Lily Aubry qui est avec nous. Bonjour Lily.
Bonjour.
Qui joue Lorelai dans le film, qui va beaucoup vous émouvoir, j'en suis sûr. Et puis Adrien Holmé qui est avec nous. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Merci d'être là aussi, qui joue Bastien. Est-ce que c'est vos premiers rôles à tous les deux? Racontez-nous déjà un petit peu votre parcours.
Bon, en tout cas, moi, c'est mon premier rôle principal au cinéma. J'avais déjà fait quelques trucs avant, mais c'est vrai que c'était mon premier gros rôle. Et voilà, on espère que le film va plaire parce qu'il nous a aussi beaucoup touché, quoi. Voilà.
Adrien, pour toi?
Ouais, alors moi, pareil, c'était mon premier rôle principal au cinéma. Ça faisait... j'ai commencé il y a 3 ans, donc j'avais fait du théâtre et des séries et un unitaire, mais c'est mon vraiment premier rôle au cinéma et on a kiffé le faire et c'était incroyable, donc
c'est dingue, premier gros rôle au cinéma, vous vous retrouvez à donner la réplique à Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Là, on se dit quoi quand on arrive sur le plateau?
Bah forcément au début c'est un peu impressionnant parce qu'on a envie d'être à la hauteur forcément. Puis c'est quand même pour nous deux des acteurs qu'on apprécie et qu'on admire en fait, et on veut absolument être à la hauteur. Mais forcément quand on arrive, les deux sont hyper hyper bienveillants, ils nous ont mis à l'aise et c'était un vrai honneur de travailler en tout cas avec eux, et puis surtout une belle expérience. Ça nous a bien forgé en tout cas, ça c'est sûr.
Pour toi Adrien?
Ouais, c'est ça. Bah comme Lily dit, ils nous ont très vite mis à l'aise en fait. José, on a directement parlé avec lui, Charlotte aussi. Ouais, ils nous ont mis grave à l'aise, donc c'était vachement cool. C'était surtout pour une comédie où il y a pas mal de scènes comiques. C'est important de bien s'entendre et rigoler avant les scènes, quoi. Avec José, on rigolait énormément avant les scènes. Donc...
Ah, tu m'étonnes, là, Lyon.
Non, mais ouais, il est comme ça. Mais du coup, ça mettait énormément à l'aise, quoi. Et on avait déjà le sourire aux lèvres avant de tourner, quoi, avant action. Donc,
On va parler de Lorelai. C'est une jeune fille. Qui est assez timide, mais à la fois qui sait ce qu'elle veut aussi. Elle se retrouve, comme Bastien d'ailleurs, un peu au cœur de cette guéguerre entre ses deux parents, qui décident de se séparer. Et on sent que elle, en tout cas, ce qu'elle veut, c'est d'essayer d'attirer l'attention sur elle à tout prix, quoi. Elle essaye, malgré tout, d'essayer de se faire une place au milieu de ces frictions, là. C'est pas simple.
Bah, en fait, comme elle est beaucoup entourée de personnes qui prennent beaucoup de place dans sa famille, déjà son père, sa mère aussi très inquiète, qui en fait, remet un peu tout en question tout le temps. Son frère aussi, avec ses histoires de cœur, etc. Je pense qu'elle a du mal à se faire sa place, et puis c'est pas quelqu'un qui passe par le dialogue, elle va plus du coup faire des actions pour un peu se mettre en avant, et forcément à chaque fois c'est pas, enfin en tout cas pas de la bonne manière, ça c'est sûr. Et c'était assez drôle pour moi d'interpréter ce rôle là parce que c'est pas du tout moi en vrai, donc c'est vrai que c'était une belle expérience de pouvoir faire quelqu'un de très introverti et qui voilà, moi dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai besoin de communiquer, et là c'était pas du tout le cas, donc voilà, elle est pas forcément hyper mise en valeur physiquement, etc. Donc c'était vraiment, enfin en tout cas de se mettre dans le personnage, c'était une vraie expérience.
Sans révéler évidemment quoi que ce soit, elle va aller assez loin pour attirer quand même l'attention de ses parents. C'est même plutôt son grand frère qui va être le premier un peu à être attiré par cette attention-là. Après, il y a des scènes très drôles quand même malgré tout. Moi, ça me fait très rire quand il y a cette grosse engueulade en cuisine et qu'à un moment, toi, tu dis « je vais partir faire le djihad en Syrie ». On sent que personne t'écoute, quoi. Non, et que t'essayes à tout prix de lancer des phrases choc comme ça.
Ouais, oui, c'est ça, c'est vraiment aller dans les extrêmes, mais c'est aussi l'humour que j'aime bien chez Florent, le réalisateur, c'est que il est toujours dans un humour comme ça, et bah, c'est vrai que le personnage va toujours à l'extrême pour en fait essayer d'attirer l'attention des autres, et puis c'est comique, mais c'est aussi hyper pathétique en fait, surtout, mais voilà, donc c'est ça ce qui fait rire, quoi.
Alors Bastien, on va s'intéresser un petit peu aussi à Bastien, qui est un jeune homme de 18 ans, quant à lui, alors qui est en pleine pause amoureuse, on pourrait dire ça, hein, en quelque sorte. Il essaye de reconquérir désespérément la jeune fille avec qui il a rompu, de son côté, face à, après une dispute, et va se retrouver un peu confronté, alors pas la même situation que ses parents, mais une situation amoureuse compliquée aussi, en même temps que celle de ses parents qui se déchirent. C'est compliqué.
C'est compliqué, en même temps ça révèle la réalité en fait. Je pense que quand on est jeune... C'est vers ces âges-là où on a un peu notre premier amour, tout ça, et des fois ça finit bien, des fois ça finit mal. Et ouais, donc lui c'est son premier amour et tout, c'est un peu compliqué. Donc il a ses problèmes personnels et en fait en même temps on lui demande d'être préoccupé par
ses parents,
par le divorce de ses parents. Mais bon, il a pas 12 ans quoi. Donc moi, de mon expérience personnelle, moi mes parents ils sont séparés il y a 2 ans. C'était plus un mal pour un bien quoi.
Ça t'a aidé dans l'incarnation de Bastien ou pas?
Ça m'a aidé parce que je trouve ça réaliste en fait. C'est généralement dans beaucoup de films, quand les parents ils se séparent, les enfants c'est souvent la crise. Généralement ils le vivent super mal. Et moi, de ce que j'ai vécu, Lily aussi, et de mes amis, c'est que quand t'as 17-18 ans, tes parents ils se séparent. Bon bah c'est dur, mais
c'est pas la fin du monde.
C'est pas la fin du monde, et limite c'est mieux quoi. S'il y a pas de cri à la maison, tout ça, des fois c'est limite mieux.
Moi, ce qui m'a frappé, tous les deux, c'est que vous campez des ados très dans leur époque. C'est criant de vérité.
Merci, c'est gentil. Ben, en tout cas, c'est aussi, en vrai, je peux le dire, c'est vraiment grâce à Florent aussi, parce que, en fait, au début du projet, il nous avait dit, voilà, là, j'ai envie de faire une histoire qui se centre sur des parents, mais aussi sur des enfants. Et souvent, au cinéma, les ados sont un peu dans les clichés, sont pas forcément hyper bien représentés, etc. Et c'est vrai que Florent, il nous a vraiment laissé notre place, à part entière, autant que les parents. Et c'est vrai que dans l'écriture, etc., c'était hyper agréable en fait, parce qu'on a pu à la fois se retrouver, mais aussi on a revu aussi l'écriture. Il nous a demandé notre avis. Est-ce que vous trouvez que ça, par exemple, c'est bien ancré en tout cas dans votre époque? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans, etc.? Et puis on a pu donner notre avis, et la plupart du temps il était assez juste quoi, donc c'est ça qui était agréable.
Il y a aussi des scènes d'infinie tendresse dans cette famille.
Ouais, comme j'ai dit en fait, ça reflète pas mal de familles, et comme vous dites en fait, il y a de la comédie, mais il y a aussi pas mal de scènes touchantes.
Merci en tout cas à tous les deux, merci beaucoup Adrien, et merci Lily d'avoir été là, nous les Leroy. C'est donc ce 10 avril dans les salles de cinéma, allez-y, ça va vous faire du bien en plus.
Attitude. Nos coups de cœur télé cette semaine.
3 mois, et oui, on va fêter maintenant les mois, hein, parce que c'est bien aussi de pouvoir les avoir régulièrement, nos comédiens de Plus belle la vie. On va démarrer avec la productrice Clémentine Planchon, qui était avec nous le 8 janvier. On a démarré l'année ensemble. 3 mois plus tard, on se retrouve pour le 66e épisode. Clémentine, on dit ouf là?
Ah ouf, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on est heureux, parce que maintenant ça y est, on est lancé vraiment, on a trouvé un rythme de croisière, je crois aussi qu'on a trouvé une vraie tonalité pour Plus belle la vie, encore plus belle. On a réussi aussi à créer une équipe de travail, une ambiance de travail qui pour l'instant est super chaleureuse et qui nous aide à encaisser ces lourdes journées qui est le rythme normal d'une quotidienne. En tout cas, on est très heureux et on espère que c'est que le début de longs mois à venir.
Mais on est sûr que c'est que le début. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. On va recevoir un des couples piliers de la série, Marie Réache et Jérôme Bertin, qui vont nous rejoindre dans une poignée de minutes. Mais malgré tout, en tant que productrice, c'est vrai que 3 mois plus tard, quel premier bilan on pourrait tirer, avec des audiences en plateforme, en streaming, qui sont incroyables, avec une audience qui a plus de 25% de part de marché tous les jours à 13h45, qui a triplé les audiences de TFX le soir. C'est dingue quand même ce qui vous arrive.
Non, bon, on est très heureux, on a eu un lancement très heureux. Après, moi je disais toujours aussi que c'était pas que le lancement, il faut durer dans le temps. Nous, ce qui compte, c'est qu'on continue à créer, à raconter nos histoires, à trouver des destins à nos personnages, et ça, plus on voit des choses aussi, plus ça nous inspire. s'inspire, parce qu'on découvre aussi, comme tout le monde, un petit peu certains nouveaux personnages, et c'est aussi eux qui nous nourrissent pour nos inspirations. Et c'est surtout ça, je trouve, que nous, en tout cas, côté écriture, côté production, on peut tirer comme conclusion. Mais malgré tout, on est quand même heureux de ce lancement, bien sûr.
En 3 mois de temps, j'ai l'impression que la série a retrouvé aussi son ADN d'origine, de parler des sujets sociétaux importants. On a parlé à travers le personnage de Jennifer du congé menstruel, par exemple, qui est en ce moment en plein examen. Il y a la violence faite aux femmes. Il y a plein de sujets que je trouvais que ça avait un peu perdu, justement, cet ADN-là à la fin. Et que là, depuis le début du retour, on sent vraiment que vous êtes en train de vous réapproprier, en tout cas, ces sujets de société sur TF1.
En tout cas, c'est vrai que c'est une vraie volonté et je pense que c'est une vraie attente des spectateurs. Certaines études l'ont montré aussi. Ils nous en parlent. Nous, on a aussi envie de le faire. Je pense qu'on a encore des progrès à faire là-dessus. On a encore des sujets qui ne sont pas du tout évoqués. Évidemment, bon, on n'a pas le temps de tout traiter en même temps. Heureusement, il faut garder dans le temps.
Garder pour 18 ans d'avance. Hein.
C'est ça. Mais en tout cas, on s'efforce. Je pense qu'on va encore s'améliorer là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est content. Ça, c'était rigolo, ce clin d'œil au congé menstruel, parce que c'était pour la journée de la femme. À cette occasion, on a eu aussi une séquence exceptionnelle qui rebondissait sur l'actualité vraiment imminente sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc ça fait partie vraiment de l'ADN de la série, de savoir rebondir sur cet actu, d'être dans la proximité, dans la bonne temporalité. Donc évidemment, on va continuer à le faire.
Et vous êtes les seuls des fois à pouvoir même tourner des séquences la veille pour le lendemain quasiment, quand l'actualité le demande.
C'est ça, après il faut toujours trouver le bon sujet. Là, l'IVG, ça s'y prêtait tout à fait, parce que déjà c'est un sujet positif. En plus, ça avait été voté quasiment à l'unanimité, pas tout à fait, mais pas loin au Parlement, donc c'est quand même, on se dit dans ces cas-là, c'est pas si clivant que ça. Donc on était heureux de le faire. Ça tombait à quelques jours de la journée du droit des femmes, donc c'était d'autant plus justifié. Donc effectivement, ça c'est tout à fait dans l'ADN de Plus Belle. Après, faut choisir nos sujets quand même. On ne peut pas rebondir sur toutes les actus. Certaines sont plus compliquées à aborder. On reste une série positive de proximité. Voilà, attendons les sujets qui s'y prêtent.
Alors il y a plein d'anciens comédiens évidemment qui sont là pour ce retour. Il y en a qui font le retour petit à petit. Ça va être le cas d'Oria Benabé. Et de plein d'autres dans les semaines à venir aussi. On entendait parler aussi de Laetitia Millot qui pourrait faire son retour dans la série Suspense.
Vous êtes bien informé, plus que moi.
Bon, et ben voilà. On va voir en tout cas ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais malgré tout, est-ce que de la part du public, il y a des familles peut-être qui manquent un peu plus? Je pense au Bélesta, je pense, voilà.
Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense pour les fans historiques, forcément, il y a des personnages qui leur manquent. On n'a pas non plus, on pourra jamais faire revenir tout le monde, répondre à toutes les demandes pour plein de raisons. Certains sont moins désireux de revenir. Certains sont pas dispo. Il faut qu'on ait une histoire à raconter. On fait pas revenir un personnage juste pour le faire revenir. Il faut qu'il y ait un propos. Faut qu'on le relie aux personnages qui sont actuellement dans la série.
Est-ce qu'on peut imaginer dans les mois qui viennent, peut-être dans les années qui viennent, est-ce que vous avez envie aussi peut-être de refaire des prime événements comme à la Belle Époque?
Alors ça, pour le coup, c'est pas une envie qui viendra de moi, ça sera une envie qui viendra de TF1 si eux le souhaitent. C'est pas à l'ordre du jour, parce que d'abord on doit implanter une série. Avant de penser prime, il faut qu'on pose nos fondements. Donc ça, c'est de toute façon une saison 1 minimum pour vraiment consolider.
Est-ce que ça pourrait être une envie?
Ah oui, à titre très égoïste et de productrice, bien sûr, avec plaisir, parce que on a des enjeux dans un prime, il y a quelque chose d'assez excitant dans la manière de produire, c'est un peu différent quand même, donc c'est artistiquement c'est super intéressant. Donc je dirais jamais non à une opportunité comme celle-ci. Je pense que voilà, pour l'instant, c'est pas au goût du jour, on en reparlera. Les autres quotidiennes de TF1 ne sont pas tellement allées sur ce terrain-là non plus. Donc
je ne le souhaite pas même, hein. On a eu le cas. Quels sont les personnages les plus réclamés aujourd'hui? Qui sont pas au casting. Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent systématiquement, que le public demande pour le coup?
Je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment un. Il y a quelques études, il y a quelques noms qui reviennent, mais finalement, il n'y en a jamais un. Il y en a toujours un certain nombre. Je pense que tout le monde serait à peu près le bienvenu. Pour les spectateurs, je pense que ce sera toujours un joli clin d'œil.
Et puis, à la fois, on a l'impression quand même qu'il n'y a aucun ancien qui a oublié d'où il venait et qu'aucun n'a vraiment fermé la porte, hein, de toute façon, à un retour, même pour une intrigue événementielle, même sur une courte durée. Mais en tout cas, on a l'impression que cette famille est restée soudée, quoi. Même après 13 mois de non-tournage, quoi.
Oui, globalement, je sais que j'avais appelé moi tous les comédiens à l'époque, hein, y compris ceux malheureusement pour qui il n'y avait pas encore de perspective d'écriture. J'ai rarement eu des portes très fermées. Après, certains avaient quand même aussi d'autres chemins qui s'annonçaient. Donc revenir en récurrence, c'est lourd aussi pour un comédien. Donc j'ai pas de portes fermées. Après, je suis pas non plus, ils m'appellent pas non plus tous les deux jours pour revenir. Hein. Ne croyez pas.
Bon, les grandes lignes de ce qui nous attend sur ce trimestre qui arrive, parce qu'on essaiera de faire un bilan tous les 3 mois. Quels sont les grands sujets qui vont être évoqués peut-être ou les grandes lignes de ce qui nous attend pour les 3 mois à venir?
Alors, toujours très compliqué de dire ça, parce que moi, mon but, c'est de ne rien spoiler du tout. Mais on va avoir des personnages séquestrés, des personnages qui reviennent et qui vont un petit peu mettre des obstacles dans la vie d'autres personnages, des troubles sentimentaux. On va avoir une fête. Voilà, c'est déjà pas
mal. C'est pas mal, hein. Pour les trois mois à venir, on va pas s'ennuyer. Coup de cœur télé consacré à Plus belle la vie, encore plus belle. Et oui, 66e épisode déjà aujourd'hui, 13 semaines d'antenne. Trois mois plus tard, on est là de retour avec Jérôme Bertin, qui était notre invité le 8 janvier, qui a démarré l'année avec nous. Bonjour Jérôme.
Salut Alain, bonjour tout le monde.
Merci d'être là, et en plus il nous fait un beau cadeau aujourd'hui, parce qu'il n'est pas venu tout seul. Il en est sa femme ce coup-ci, Marie Réache, sa femme de fiction. Et oui, et c'est franchement, Patrick et Babette, c'est le couple infernal de Plus belle la vie, qu'on aime tellement. Bonjour Marie.
Bonjour à tous.
Merci d'être là tous les deux pour fêter ces trois mois. Trois mois de diffusion, c'est pas rien. Après ces 18 ans d'histoire et ce retour inespéré, quand on voit en plus les audiences faramineuses que vous faites, j'imagine que vous avez dû pousser un grand ouf de soulagement, non, de voir le public au rendez-vous.
Ouais. Oui, et ils nous ont manqué. Donc de retrouver ce, c'est un incroyable ce truc qu'on a avec les gens maintenant. Ils nous connaissent depuis tellement longtemps. Enfin, Jérôme et moi, ça fait quand même 10 ans. Il y en a, ça fait Laurent 18 ans. On retrouvera jamais ça, une telle proximité avec des gens.
Ouais. C'est une histoire d'amour avec le public.
Ah ouais. clairement, parce que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que pendant cette année et demie, pendant laquelle on n'a pas été diffusé, on a eu quand même des gens qui n'avaient pas perdu l'espoir. C'est-à-dire qu'ils disaient surtout, quand est-ce que ça va repartir ? Et c'est grâce à ça finalement que c'est reparti. C'est justement ce lien incroyable qu'on a avec ce public qui ouais. fait qu'aujourd'hui on est là. Moi, il y a un truc quand même que je trouve hallucinant. Tu me dis, c'est l'épisode numéro 60.
5, 6, numéro 66 aujourd'hui.
Oui, numéro 66. Tu vois, quand on voit ça, nous, ça nous fait bizarre. On était sur le 4665e, je crois, quand on a terminé Plus belle la vie. Donc là, voilà. Mais c'est bien la preuve que c'est un nouveau projet, tout en étant Plus belle la vie. Encore plus belle.
Il y a plein de nouveaux personnages qui gravitent autour. On en a parlé le 8 janvier, hein. La seule qui me manque vraiment et énormément aujourd'hui et qui est quand même l'absente de la famille Nebout, c'est Laurie Bordesoul, que j'embrasse évidemment parce que je sais qu'elle m'écoute quasiment toutes les semaines. Et franchement, elle nous manque, Laurie, quoi.
Salut ma petite Laurie.
Salut Laurie.
On t'aime, tu nous manques.
On t'attend.
Mais j'espère en tout cas que Émilie fera bientôt son retour dans cette famille Nebout. Une famille qui est dans le cœur des téléspectateurs. C'était une évidence pour vous de rempiler, de revenir tous les deux.
Ah oui, moi il n'y a pas eu photo 5 minutes. Voilà, après moi je fais du théâtre à côté et je veux pouvoir faire d'autres choses, mais il n'y a pas eu une seconde d'hésitation sur le fait de reprendre. Non, pas une seconde.
Ouais, et là on vient de terminer une intrigue policière familiale et c'était un plaisir de se retrouver évidemment. Enfin, de toute façon, on s'est appelé quasiment instantanément quand on a su que ça repartait et voilà, c'est bah ouais, pour le public, les Nebout, c'est quand même une famille, c'est un des piliers de Plus belle la vie, mais pour nous aussi, en fait, ça l'est ouais. devenu, quoi, parce que moi, Marie, elle fait partie de ma vie depuis 11 ans.
Et d'ailleurs, avant d'apprendre la reprise de la série, j'avais proposé à tout le monde de faire une neboutade chez moi.
Absolument.
Donc avec Laurie, Marie-Anne Rez, Jérôme, Louis Duneton, voilà, je me suis dit, il est temps de réunir cette famille Nebout, c'est pas possible, là, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, on est tellement pas habitués. Et puis voilà, on n'a pas eu le temps de la faire parce qu'on a appris la reprise de la série.
Tout s'est fait après, mine de rien, très très vite. Hein, quand nous, on l'a appris début juillet, quand ça a été officialisé, on a commencé à en entendre parler un peu à l'Ascension, justement. Et c'est une aventure, en tout cas, formidable. Alors, on sort de cette intrigue-là, ça y est, hein, la jambe va mieux, j'ai l'impression, mon cher Patrick Nebout.
Oui, absolument, c'est, j'ai retrouvé...
Il n'y a plus la telle.
J'ai retrouvé toute ma mobilité, hein, qui était déjà précaire quand même avant, puisque maintenant, j'atteins un grand âge, hein, dans la série. donc, voilà, mais néanmoins, maintenant, je suis debout sur mes deux pieds et après avoir mené une enquête avec ma femme et mon pote Boer, qui est aussi mon collègue, de la meilleure façon qui soit, puisqu'on a sauvé Luna.
Ah oui, c'est pas rien, hein, mine de rien. Elle avait du mal à le croire, hein, quand même au début.
Mais pas du tout, j'ai toujours dit que t'avais raison. Mon chéri, tu sais bien.
Voilà. Alors là, la mauvaise foi de Babette qui ressort.
On a un des traits de caractère, non pas de Babette, mais de Marie Réache et Babette.
Est-ce que c'est pas moi qui ai vu le meurtre au départ? J'ai un doute.
Voilà, c'est ça. Ben voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça que je l'aime.
Bah oui, mais on sent vraiment entre vous une alchimie, vous connaissez par cœur, mine de rien, tous les deux maintenant.
On peut dire ça.
Ouais,
hein.
Ouais. Ouais. On se connaît bien, bien. Ouais, ouais.
Un qui commence à avoir l'œil qui frise, j'imagine que l'autre réagit au quart de tour, quoi, finalement. C'est vrai que ça doit donner des situations cocasses par moment. Je suis sûr que vous inventez un peu, même aussi. Tous les deux, un peu, des fois, sur quelques scènes, vous avez un peu de place à l'impro, tous les deux.
Ah bah de toute façon avec moi c'est obligatoire puisque je ne dis jamais le texte qui est écrit, voilà. Elle va le dire.
Puisqu'il ne le sait pas, donc de toute façon forcément on improvise, donc comme il ne dit pas le texte, du coup je ne réponds pas non plus le texte.
Parce qu'au début ça
déstabilisait. Et en fait après on parle entre nous, voilà. Quoi, tous les deux. Voilà, oui. on invente nos mots.
Une espèce de blougi-boulga, voilà. Neboutien.
Voilà, qui... sachant que des fois Jérôme bug et bégaye, donc ça c'est il faut le savoir.
C'est d'une mauvaise foi, mais c'est quand même honteux de parler de son mari comme ça, publiquement, merde.
En tout cas, il y a une colocation qui nous fait beaucoup rire aussi, et ça va donner lieu à une multitude de scènes cocasses qui peuvent arriver dans l'avenir. C'est ça qui est bien d'avoir réuni justement sous le même toit Bauer et Patrick Nebout et Jean-Paul Bauer, franchement. C'est la meilleure idée de l'année, ça.
Ça, c'est vraiment quand Clémentine Planchot, notre productrice, m'a dit qu'il y aurait un appartement commun au Nebout et Bauer. Là, j'ai trouvé ça génial comme idée, parce que ça donne un terrain de jeu énorme. En plus, c'est vrai que Stéphane et moi, on est très très potes, et que d'ailleurs, on s'est vus pendant toute l'année d'arrêt. Donc, du coup, on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et on peut y aller franchement, parce que l'amitié est tellement forte que les auteurs peuvent nous écrire ce qu'ils veulent. On va trouver la façon de le jouer de façon sympa.
C'est ça qui est vraiment chouette. Qu'est-ce qui nous attend un peu dans les semaines qui viennent, sans trop évidemment dévoiler?
Alors il y a un événement qui va secouer bien la famille Nebout dans son ensemble et qui va mêler pas mal de gens du Mistral, Barbara, d'autres.
Voilà, donc ça c'est ce qui vous attend là très vite.
Très vite, en ce mois d'avril.
Ouais.
Et ensuite, le mois d'avril va être très riche aussi pour d'autres raisons sur Plus belle la vie. Mais voilà. Je peux rien dire.
On va suivre ça. J'imagine le coup moral que vous avez eu quand on vous a annoncé le démontage des décors emblématiques, votre appartement, vous avez passé des années, etc. Est-ce que vous êtes vite fait à tous ces nouveaux décors aujourd'hui?
Alors, on aimait énormément notre appartement. On était vraiment vernis parce qu'on avait un super décor. Alors, on avait un peu peur. Et quand on est arrivé dans le nouveau, il est extra.
Moi, j'adorais. Et d'ailleurs, mon regret, c'est de ne pas avoir pu récupérer un morceau de ce décor-là. J'aurais vraiment voulu garder quelque chose de ce décor parce que je l'adorais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a adopté ce nouvel appartement instantanément. Et cette idée de cohabitation avec Bauer et donc Léa. Non, on est très heureux de ce nouveau décor.
Ouais. Non, et puis c'est un très grand appartement en plein centre de Marseille. Il y a je sais pas combien, 6 ou 7 pièces, c'est je sais pas combien il y a de mètres carrés, mais enfin
ouais,
c'est
le,
un
genre
appartement
l'appartement qu'on n'aura jamais quoi, le
oui,
truc.
Voilà,
donc,
l'appartement cœur de Marseille. Et en plus hyper bien meublé, il y a un goût et sans que ça fasse bling bling.
Ouais, parce que ça j'aimerais bien rendre hommage à la déco, à toutes les équipes de la déco de Plus belle la vie, parce que vraiment ce qu'ils ont été capables de faire.
Ah oui, le timing en si peu de temps,
dans un délai aussi court. Vraiment, on a des magiciens à la décoration de Plus belle la vie. Là, je viens de tourner des séquences extérieures incroyables, menées encore grâce à ce travail de la déco. Vraiment, on les voit pas à l'antenne. On voit leur travail, mais on voit jamais ces gens-là. Et toutes ces personnes de l'ombre de Plus belle la vie, c'est des magiciens. Et je les remercie infiniment parce que vraiment, ils nous donnent la possibilité de faire des trucs incroyables.
Merci beaucoup, tous les deux. Vos projets, est-ce qu'il y a d'autres choses à côté qui se dessinent? Alors, du théâtre peut-être pour toi, Marie?
Oui, alors moi, je vais sortir un album en septembre. J'ai une chanson qui s'appelle Caméléon, qui sortira, qui est une chanson de l'album qui sortira au mois d'avril. L'album s'appelle Les Cœurs Purs. Et par ailleurs, je vais jouer au théâtre à partir du mois de novembre, un spectacle qui s'appelle Britannicus Tragic Circus, où il y a aussi mon fils Jules. C'est un spectacle qu'on a joué 2 années à Avignon, qui a eu un gros, gros succès et qu'on est très heureux de reprendre à Paris.
Alors moi je confirme, j'ai adoré Britannicus et Marie Réache en Agrippine, ça vaut vraiment le détour, mais il faut aussi l'écouter chanter. Et d'ailleurs à ce sujet, Marie, je pense qu'il serait bien que tu nous rappelles le couplet de Tout va bien,
ouais.
Parce que c'est une très jolie chanson qu'elle a chantée avec son mec.
Bah, il faut l'écouter. Faut aller.
Non, vas-y.
Elle est déjà, il y a déjà un clip sur YouTube qui s'appelle Tout va bien, TWO, tout va bien. Et le groupe s'appelle Les Cœurs Purs.
Écoute, on va faire mieux.
Ouais.
On va en écouter un morceau maintenant. Non, je t'en écoute la télé. Ok, on va terminer comme ça. Merci beaucoup, Marie, et merci à toi, Jérôme. À très vite.
Merci Alain, merci à tout le monde. Et puis que la vie soit encore plus belle à chacun de vous. On vous embrasse, bisous.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé consacré à Home Checking, que vous avez peut-être découvert, en tout cas les deux premiers épisodes hier soir sur OCS Pulp. On continue à en parler aujourd'hui avec Karl Malapa et Sophia Le Saff qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
On a fait connaissance avec Yasmine et Bilal qui nous a emmenés dans des territoires dans le deuxième épisode déjà que vous avez peut-être vu hier soir. Alors, pour situer un peu l'histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premiers, on va y suivre l'histoire d'un couple où tout va relativement bien pour eux, qui habitent une belle maison assez stressante dans une forêt en plein milieu de rien, avec des souterrains très mystérieux, et jusqu'au moment où ils vont être victimes d'un homejacking à domicile par un jeune garçon cagoulé avec une jolie cagoule rose. Et on va découvrir vite fait dans l'épisode 2 évidemment que ton personnage Bilal est bien impliqué dans cette affaire, mais en même temps que ce couple n'a pas l'air si clair que ça quand même malgré tout.
Ouais, on va découvrir les raisons du braquage de Bilal en fait, et qu'il y en a plus que ce que l'on sait quoi.
Exactement. Puis la maman, on va découvrir aussi votre maman à tous les deux qui est atteinte d'un cancer incurable et qui va vous faire des révélations, et on va comprendre ce qui a mené Bilal en tout cas dans cette quête, ce qui a mené ce frère et cette sœur. Qu'est-ce qui vous a plu vous en premier dans le projet, Sophia?
Alors moi déjà le premier signe qui m'a donné envie, c'est quand même le scénario que tu lis, tu tournes les pages assez rapidement, ça se lit hyper vite parce que t'as trop envie de savoir ce qui se passe. À chaque page il y a un rebondissement, à chaque chapitre tu t'attaches à un personnage et en fait tu te rends compte que à la fin de l'épisode c'est peut-être lui le méchant, tu sais pas, et du coup t'as envie de tourner les pages rapidement pour comprendre ce qui se passe
et d'aller au bout. Et ça généralement c'est le secret d'un scénario hyper bien ficelé, quand vous comédien déjà vous avez envie d'aller jusqu'au bout pour découvrir un peu l'issue quoi finalement.
Bah oui, ce qui est fou c'est que dans l'équipe de comédiens on a vraiment tous eu le même sentiment au même moment, c'est-à-dire que quand on lisait la série à l'épisode 4 à l'épisode 5, on a tous transpiré, on a tous rigolé, on a tous pleuré, et c'est rare que vraiment tout le monde a ressenti exactement la même chose en lisant un scénario, quoi.
C'est clair. Et puis on va découvrir que Mohamed, qui est votre papa, c'est un peu justement cette quête qu'on va découvrir dans l'épisode 3 et 4 qui sera diffusé dimanche prochain. On va découvrir pas mal de secrets. C'est aussi des secrets de famille enfouis. C'est aussi les secrets de ce couple qui n'a pas l'air si clair qu'il en a l'air aussi. Cette rencontre avec Marie et puis Yannick. Alors il y a eu des scènes quand même. Alors sur le premier épisode, le objecting est quand même assez violent. On comprend, et en fonction des différents points de vue, la scène nous paraît moins violente aussi. C'est ça que j'ai trouvé assez magique malgré tout. Mais avec la diversion des points de vue, cette scène en fait s'explique au fur et à mesure.
En fait, Marie et Yannick, ce sont des acteurs incroyables. Moi, j'ai pris un plaisir fou à faire cette scène. Yannick, on se préparait le matin, on essayait de se donner des idées de torture qu'on pouvait faire, qui pouvait être forte, etc. Et Marie, pareil, elle donnait quoi. Enfin, elle me disait de me lâcher sur le plateau et elle voulait recevoir quoi en fait. Et je pense que c'est le secret sur le plateau. Tout le monde voulait soit donner énormément, soit était prêt pour recevoir énormément. Et surtout dans des scènes comme ça. Et voilà.
Toi, t'as pas eu trop de scènes dans la maison, t'étais surtout en dehors, Sophia, pour le personnage de Yasmine.
Oui, exactement. Moi, je me souviens, le scénario, ça me faisait beaucoup rire. J'avais que des plans où c'était marqué Yasmine stressée, Yasmine alerte, Yasmine qui regarde, Yasmine observe, Yasmine se cache. Moi, c'était beaucoup ça, en vrai.
Pas que. La rencontre entre vous deux, vous aviez déjà tourné ensemble ou pas?
Non, pas du tout. Moi, je connaissais Karl du travail. Je voyais un peu dans quoi il avait joué et tout. Je voyais qui c'était, mais je l'avais jamais rencontré personnellement. En vrai, ça a tout de suite matché nous deux parce que Karl est arrivé en dernier sur le projet. J'ai d'abord été confirmée et Karl ensuite. Et en fait, moi, j'avais cette petite angoisse de. Enfin, en tout cas, c'était un questionnement que j'avais pour Hervé. Je voulais vraiment avoir la certitude d'être avec un garçon qui allait vraiment, avec qui ça allait matcher. Parce qu'en fait, on joue un binôme, on joue un duo. On est des frères et sœurs jumeaux, donc on a 20 ans de vie commune. Il fallait quelqu'un avec qui le feeling passe directement pour qu'on la complicité se voit à l'écran.
On souffre avec ce frère et cette sœur au fur et à mesure de l'histoire parce qu'on comprend les enjeux. Vous allez découvrir en voyant les troisième et quatrième épisodes, mais encore, vous n'allez pas être au bout de vos surprises parce que on va vraiment de surprise en surprise jusqu'à la fin. Alors, qui sont les bons, qui sont les mauvais? C'est ça qu'on va découvrir.
Oui, mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu disais qu'on a tous vécu la même chose en lisant le scénario, ça c'est vrai. Et sauf qu'à la fin, à la révélation, à la fin du dernier épisode, ce qui est ouf avec cette série, c'est que tu te retrouves toi à justifier, à
être pris d'empathie et justifier les agissements d'un personnage qui sont complètement indéfendables pour quelqu'un d'autre, tu vois. En fait, la diversité des points de vue, elle est intéressante parce que du coup, le spectateur, il peut vraiment s'identifier à tel ou tel personnage et être en empathie avec l'un, pas avec l'autre, etc. Et donc, je pense que quand la série se termine, c'est le genre de projet où tu débats un peu après.
C'est clair, oui.
Ah ouais, c'est sans en dire trop. Voilà, et c'est vrai que tous les, il y a pas un personnage qui est vraiment noir ou blanc. C'est plus une zone de gris, et ça pour tous les personnages.
C'est ça qui est chouette. Alors il y a plein de projets pour vous deux aussi, puisque notamment toi, Sophia, t'as joué dans Vermine, le film dont on a tant entendu parler pour les fêtes de fin d'année. Et justement, si vous l'avez pas vu au cinéma, eh bien vous allez pouvoir le rattraper. Il arrive là dans les semaines qui viennent. En tout cas, en DVD et VOD.
Oui, il y a le DVD qui va sortir, il y a surtout la version collector qui va sortir, qui est juste, enfin moi je l'ai vu, j'ai suivi un peu le process, très 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 stylé. Le réal Sébastien Vanitschek a mis énormément de choses à l'intérieur, de storyboard, de ses dessins, de fiches de personnages. Il y a un making of qui est vraiment très très cool.
C'est ça qui est l'intérêt aujourd'hui d'avoir l'objet DVD, c'est aussi ça qui fait fonctionner, c'est que quand on a des bonus, quand on a des making of, des scènes coupées, des exclusivités, et c'est ça aujourd'hui, c'est ça qui est bien.
Il est vraiment pensé comme ça, le DVD, il est pensé pour justement tous ceux qui vont l'acheter, avoir une petite partie de Vermine en plus que les autres ont pas pu avoir.
Ton rôle en quelques mots dans Vermine?
Ah, moi je suis Lila, je suis l'arachnophobe du groupe. Je suis vraiment du coup celle qui va le plus souffrir entre guillemets de cette situation, puisque je sais pas si, pour ceux qui l'ont pas vu, Vermine c'est une araignée qui s'échappe dans un bâtiment et qui va se reproduire, et on va se retrouver envahi par les araignées dans le bâtiment, et du coup pour Lila c'est vraiment vraiment compliqué à gérer quoi.
Et toi, réellement, les araignées, c'est ton truc ou pas du tout?
Non mais alors moi, avant le tournage j'étais arachnophobe, mais à la limite de la folie, c'était grave. Et avec le tournage j'ai vraiment eu, en fait j'avais cette volonté vraiment de ne plus avoir peur des araignées, parce que c'est le seul insecte qui me dégoûte ou dont j'ai peur, et j'avais envie de guérir de ça. Enfin là j'ai plus peur du tout.
C'est ça t'a soigné?
Ouais, complètement.
Pour toi Karl, les projets à venir?
Moi j'ai une série qui va sortir sur Canal normalement en septembre octobre 2024 qui s'appelle Sentinelle, qui est une série d'époque de fiction pour la Première Guerre mondiale où on joue des super soldats. Et voilà, et là je vais enregistrer un film d'animation là le mois prochain, une adaptation de Carmen qui s'appelle Prends garde à toi. Très contente d'essayer des nouveaux trucs quoi.
Bon, et bien écoute, en tout cas on va suivre tous vos projets. Merci Karl, merci Sophia d'avoir été avec nous. On vous retrouve pour l'épisode 3 et 4 de Home Jigging, cette série passionnante créée et réalisée par Hervé Admar. Ce sera dimanche soir la suite sur OCS Pulp. Merci à tous les deux.
Si les flics voient ça, vous fuient. Ça toi et moi, on sait que on peut pas se le permettre, non?
J'ai toujours trouvé ça fascinant, la peau. Ça se régénère par la douceur. Contre Tigouin.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com, et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chut, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus, prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agences en Charente, à votre service, à Angoulême et Villebois-Lavalette, et sur mazagran-immobilier.com.